Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21, du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaëlle et je suis la maman d'Arthur et de Charles, qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire et m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence, mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous offrir le témoignage de Catherine. Je crois que c'est une des interviews que j'avais le plus hâte d'enregistrer. Et je n'ai pas été déçue d'attendre quelques mois que Catherine soit prête à me livrer son incroyable histoire. D'un côté, il y a ceux qui apprennent la trisomie 21 de leur enfant durant la grossesse et vivent ensuite ce diagnostic sans connaître le visage de leur bébé et cheminent petit à petit jusqu'à la naissance. De l'autre côté, il y a ceux qui, comme moi, viennent de rencontrer leur enfant et tombent de haut en apprenant que celui-ci a un chromosome supplémentaire. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, arrive à apprivoiser la nouvelle grâce à cet enfant qui s'éveille au monde et leur fait voir tout un éventail de possibilités. Et puis il y a Catherine. Catherine qui a vécu plusieurs mois aux côtés de son fils, sans savoir qu'il était porteur de trisomie 21. Ça paraît inconcevable, et pourtant, sans plus tarder, écoutons-la nous raconter son histoire vraiment très spéciale. Bonjour Catherine, comment vas-tu ?
Bonjour Raphaël, très bien et toi ?
Ça va, je suis très heureuse que tu sois ici donc pour nous partager ton histoire. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter et nous présenter également l'extraordinaire personne qui fait partie de ta vie ?
Alors, je m'appelle Catherine, j'ai 39 ans, je suis enseignante au lycée, je suis mariée à Timothée depuis déjà 15 ans maintenant. Nous habitons la Suisse et nous avons trois beaux enfants, donc deux filles de 10 ans et 8 ans, et William, notre petit dernier dont on va parler aujourd'hui, qui a un peu plus de 2 ans. Et notre histoire est un peu particulière parce que nous avons découvert sa trisomie 21 lorsqu'il avait 9 mois.
Ah oui, en effet. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment quand il avait 9 mois, ce qui n'est pas commun, où vous avez découvert ça ?
Alors, bon, du coup, je fais un petit retour en arrière. Je commence à la grossesse. Donc, c'est une grossesse qui s'est très bien passée. Pas de soucis. J'ai fait le fameux tri-test. Mm-hmm. Et puis, sans me faire trop de soucis, d'ailleurs, j'avais 35 ans à ce moment-là. Enfin, bientôt 36, ouais. Et les résultats étaient très bons, en fait. D'ailleurs, ça m'avait étonnée. Je me souviens que les résultats n'étaient pas du tout inquiétants. Et donc, le gynécologue n'avait pas proposé de faire un DPNI, puis nous non plus, en fait. On se faisait pas plus de soucis que ça. Et donc, après, j'ai accouché dans un hôpital universitaire, donc un hôpital qui a une bonne réputation, qui a une bonne maternité. C'est un accouchement qui s'est très bien passé, c'était rapide, il n'y a pas eu de soucis. Voilà, William est né, on était très heureux, enfin on l'est toujours d'ailleurs, mais on était très contents. Comme ça se fait toujours, il y a un pédiatre qui l'a contrôlé à la naissance, qui a fait ses tests là de réflexes, etc. Et voilà, personne ne nous a rien dit, nous on n'a rien remarqué de particulier. Tout se passait super bien, quoi. Je suis restée 2 jours en maternité. Et après, vu que tout allait bien à part une petite jaunisse, mais qui était sur le point de passer, on est rentrées à la maison. Les filles ont découvert leur petit frère parce qu'elles n'avaient pas pu venir à la maternité vu qu'on était en plein Covid.
Ah oui.
Elles étaient toutes contentes de le voir. Enfin, ça se passait super bien. L'allaitement s'était bien mis en place. Et en Suisse, en fait, on a un suivi pendant environ 10 jours de semaine. Il y a une sage-femme qui vient à domicile pour nous aider à mettre en route l'allaitement, qui vient répondre à certaines questions. Donc elle est venue régulièrement pendant 2 semaines chez nous.
Super.
Ouais, vraiment super. Et ça se passait bien, quoi. Il y avait toujours cette histoire de jaunisse, en fait. Voilà, il était encore assez jaune et puis il était du coup un petit peu mou à cause de ça. Mais à part ça, elle a dit que tout allait bien. Donc au bout de 10 jours de semaine, elle a arrêté de venir chez nous. Puis on a démarré notre vie à 5. Et après, les 9 premiers mois se sont super bien passés. C'était voilà, un bébé plutôt calme qui faisait rapidement ses nuits. Donc nous, on était tout contents, on pouvait dormir.
Tu m'étonnes.
L'allaitement se passait toujours très bien. Et puis après, pendant ces 9 mois, j'ai eu les contrôles habituels chez notre pédiatre. Un contrôle au 1 mois, au 2 mois, au 4 mois, au 6 mois et au 9 mois, je crois. Donc ça fait quand même beaucoup de contrôles. Et puis après, entre deux, je me souviens que j'étais allée une ou deux fois pour poser quelques questions, pour qu'elle le pèse. Donc j'ai vraiment vu beaucoup de monde, quoi. Enfin, je l'ai vue souvent. Quand c'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre. Enfin, et jamais on me disait quoi que ce soit. Et voilà, donc le dernier contrôle qu'on ait fait sans savoir son diagnostic, c'était le contrôle des 9 mois. Et là, bah même là, en fait, elle m'a dit que tout allait bien, même si il n'était pas forcément hyper en avance. Elle l'a quand même dit. Elle a dit oui, effectivement, au niveau développement moteur, il n'est pas très en avance, mais il est juste dans les temps. Et voilà, elle semblait pas plus inquiète que ça. Je me souviens d'ailleurs que je lui avais demandé, mais il n'est pas en retard. Puis elle m'avait dit non, il est juste dans les temps. Donc voilà, ça c'était le dernier contrôle sans que personne ne pose de diagnostic.
On pouvait dire qu'il était juste un petit peu feignant, quoi.
Tout à fait. Puis après, bah en fait, juste après ce contrôle des 9 mois, il a commencé la crèche parce que moi, j'allais reprendre le travail. Et comme ça se passe, je pense aussi en France, il y a ces quelques jours d'adaptation où d'abord il reste 1 heure, puis après il reste
Oui,
peut-être
tout à
trois
fait.
heures, puis après finalement il reste 5, 6 heures. Et puis en fait, je crois que c'était le 3e jour, il devait rester quasiment toute la journée. Et il faisait quelque chose comme 10h, 17h, je crois. À 17h, en fait, ce qui n'arrivait absolument jamais, normalement, c'est toujours moi qui allais le chercher seul ou bien mon mari tout seul. Mais là, je ne sais plus pourquoi, on était les deux à la garderie. Donc, mon mari et moi, on allait le chercher les deux. Et donc, on entre à la crèche. Il n'y avait presque plus personne, en fait. Il y avait juste une personne qui était la jeune femme qui s'était occupée de William pendant la journée. Et puis, ben, elle nous fait le retour sur la journée. Elle disait que ça s'était bien passé. Elle a raconté ce qu'il avait, voilà, ce qu'il avait fait, combien de temps il avait dormi, etc. Et puis après, j'ai senti qu'elle était un peu gênée. C'est comme si elle cherchait à nous dire quelque chose, en fait. Moi, à ce moment-là, j'étais en train de, en fait, prendre William qui dormait dans son petit lit à barreaux. Et puis tout d'un coup, elle nous dit, vous auriez pas eu un diagnostic de trisomie à la naissance. Et
Wow.
ouais, waouh, comme tu dis. Et d'abord, je me suis dit, mais elle parle de quoi? Enfin, puis après, elle était de plus en plus mal à l'aise. Et puis elle nous dit quelque chose du style, mais pas la 21, évidemment, mais la 8 peut-être, une trisomie légère. Enfin, on s'est regardé avec mon mari, puis on s'est dit, mais elle nous parle de quoi? Et je me souviens que je lui ai dit quelque chose du style évidemment que non, enfin, on vous aurait dit. Et puis après, elle a dit, ah, d'accord. La conversation s'est finie comme ça parce qu'elle était super gênée. Nous, on était ultra choqués. On a pris William, je crois que je l'ai remercié pour la journée, enfin, de s'en être occupé. Puis on est parti sans rien dire, quoi. Tellement qu'on était abasourdis de ce qu'on venait d'entendre. Et voilà, c'est comme ça que a démarré l'histoire.
Et alors du coup, cette personne fait cette réflexion inattendue et quelle est la première chose que vous avez faite quand vous êtes partie?
Bon, alors déjà, je me souviens d'une sidération totale. J'ai souvenir que j'ai rien dit en marchant jusqu'à la voiture, mon mari non plus. Et c'est en montant dans la voiture que tout d'un coup, je lui ai dit, mais est-ce que tu as aussi entendu la même chose que moi? Elle nous a parlé de trisomie. Et lui, il me dit, oui, j'ai aussi entendu ça. Puis là, j'ai souvenir que j'ai commencé à pleurer. Et puis que j'étais vraiment, mais complètement choquée. Puis j'ai souvenir d'une grande angoisse qui m'est d'un coup venue dessus, comme ça. Je sais pas comment dire, le sol se dérobait sous nos pieds.
Oui, tout à fait, on ne comprend pas. Et j'imagine que vous avez essayé de contacter quelqu'un, peut-être un médecin.
Oui, alors j'ai souvenir qu'après en rentrant à la maison, c'était la panique totale. J'ai d'abord essayé d'appeler notre pédiatre que j'avais vu donc 2 semaines avant pour le contrôle des 9 mois. Mais vu qu'il était quelque chose comme 17h30, le cabinet était déjà fermé. Je suis tombée sur le répondeur, je crois que j'ai même laissé un message. Enfin voilà, la panique. Et après, je ne savais pas qui appeler, donc j'ai appelé un numéro d'urgence pédiatrique.
Ah oui.
Et là, je suis tombée sur une infirmière de garde. Je crois qu'elle n'a pas trop compris de quoi je lui parlais. T'es très étonnée de ma question, mais comment ça, une trisomie? Mais ça se serait vu. Enfin, j'ai souvenir qu'elle était un peu surprise qu'on lui pose cette question.
Ça devait être une première fois pour elle aussi,
Ah oui, je pense. Donc, elle m'avait pas vraiment donné de réponse. A priori, elle me disait non, je pense pas, mais après, elle avait pas non plus complètement exclu la possibilité. Après, j'ai souvenir d'avoir recherché sur Google. Donc là, ça fait que d'augmenter mon anxiété.
Oui, parce que vu ce qu'on trouve.
Exactement. Après, j'ai appelé une amie qui est pédopsychiatre. J'ai observé William sous toutes ses coutures. Enfin, c'était vraiment une soirée difficile. La panique.
Et est-ce que tu t'étais déjà fait la réflexion qu'il faisait pas telle ou telle chose comme ses sœurs avant lui, au même âge, ou comme les autres enfants autour de lui?
Oui, alors quand même honnêtement, je dois dire que oui, ça, je m'étais quand même fait la réflexion. Je me disais, mais tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que ses sœurs, à tel âge, elles faisaient déjà ci, elles faisaient déjà ça. Mais en même temps, j'avais pas un souvenir très précis de l'âge auquel elles avaient fait telle ou telle chose. Mais de façon globale, j'avais remarqué qu'il était un peu plus en retard. Mais en fait, après, je m'étais dit, ah, c'est un garçon. Alors on dit que parfois les garçons mettent plus de temps. Désolée pour les garçons qui nous écoutent, hein, mais. Et puis après, je me souvenais de mes parents qui avaient toujours parlé de mon frère qui avait parlé très tardivement, qui avait marché un peu plus tardivement que moi. Donc, en fait, je sais pas. Je m'étais dit, bah voilà, il prend un peu plus son temps, mais j'étais pas inquiète quand même.
Comment s'est passée du coup la première consultation avec un médecin suite à ce doute qui restait un doute mais qui a pesé sur ta tranquillité d'esprit, quoi?
Bah, du coup, le lendemain matin, la pédiatre m'a rappelé parce qu'elle avait entendu et lu mes nombreux messages. 7h30, je l'avais déjà au téléphone. Et puis, enfin, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et puis, je pensais qu'elle allait tout de suite balayer mes doutes, en fait, en disant « Mais non, pas du tout ». Et en fait, il y a eu plutôt un silence au bout du fil. Et là, je me suis dit « Oh bah mince, alors ». Elle m'a dit qu'il fallait faire un caryotype. Je crois que je lui ai demandé ce que c'était, puis elle m'a dit une analyse génétique pour en être sûre. Je me souviens qu'elle avait quand même dit quelque chose du style « je pense pas » et au pire, ça serait une trisomie 21 mosaïque. Donc là, de nouveau, je n'ai pas trop compris de quoi on me parlait. 2 heures plus tard, j'étais à son cabinet pour faire la prise de sang.
Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est la trisomie mosaïque?
Alors, la trisomie mosaïque, ça signifie que pas chaque cellule a 3 copies du chromosome 21, mais que certaines cellules, en fait. Et donc, parfois, les symptômes sont plus légers. Elle pensait que soit il avait rien, soit il avait ça, une trisomie mosaïque, mais j'avais l'impression, dans ce qu'elle disait, qu'elle excluait le fait, la possibilité qu'il ait une trisomie 21 libre et homogène, ce qu'il a au final.
Et est-ce que sur le moment, ça t'a rassuré un peu?
Pas du tout. Je crois qu'elle pensait que ça me rassurait, mais déjà, moi, je passais de l'état où, il y a 2 semaines en arrière, on m'avait dit que tout allait bien, qu'il était un poil, enfin, qu'il n'était pas en retard, mais qu'il prenait son temps, à une situation où on me dit que peut-être il a une trisomie 21. Donc, c'était déjà un choc énorme, même si elle essayait de dire, oui, mais c'est peut-être mosaïque, donc c'est pas si grave et tout ça. Moi, j'étais déjà tellement choquée, en fait, de la possibilité qu'il ait une trisomie. Ça m'a pas du tout rassurée.
Tu passes en fait d'un peu de physiothérapie peut-être à...
Oui, c'est ça. Au rendez-vous des 9 mois, elle m'avait dit justement qu'il était un peu mou. Et elle m'avait dit, vous pouvez faire un peu de physio pour le dynamiser, si vous voulez. Et ce qu'on avait déjà fait avec notre deuxième fille. Donc, j'étais passée de ça à, il a peut-être une trisomie. Donc, c'était extrêmement violent et pas rassurant.
Vous avez donc fait ce karyotype pour vérifier s'il avait 46 ou 47 chromosomes et comment t'as vécu l'attente jusqu'au résultat?
Eh ben d'abord, ils nous ont annoncé que ça allait prendre 3 semaines. Et on était tellement stressés, en fait, qu'elle a finalement proposé une analyse plus rapide, qui s'appelle analyse FISH, je crois, qui cible en fait vraiment le chromosome 21. Et là,
D'accord.
ils ont les résultats en 3 jours.
Je connais pas.
Ouais, donc elle nous a proposé de faire ça pour mettre fin à l'attente. Et donc, elle nous a dit. Qu'on aurait les résultats 3 jours après. Et puis, je me souviens qu'elle a dit quelque chose du style ben, je vous appellerai dans la matinée, jeudi matin, pour vous dire que. Je sais plus si elle a dit que tout va bien, mais quelque chose de similaire. Enfin, on sentait qu'elle n'y croyait pas vraiment. Elle pensait que le résultat.
Serait négatif.
Voilà, ouais. J'ai un souvenir de... C'était vraiment terrible, ces 3 jours, en fait. J'ai souvenir d'une énorme anxiété, puis vraiment la peur qui s'installe, comme ça. Et c'est la première fois de ma vie, je crois, que je pouvais plus du tout manger, ce qui m'arrive pas souvent, mais j'avais vraiment l'estomac noué, des nausées, j'avais de la peine à dormir, et vraiment, ça m'est jamais arrivé. Et puis, cette impression que c'était la fin de ma vie, en fait. Vraiment incroyable. Et puis, après, ce qui était très étrange aussi, c'est que j'avais des images qui me venaient à l'esprit, comme si mon cerveau avait fait des associations de tout ce qui me faisait le plus peur en lien avec le monde de l'handicap. Donc, j'avais des images de... Mais je pense que ça vient de films, peut-être, que j'ai vu des images d'institutions avec des gens très handicapés, des espérances de vie très raccourcies de 30 ans ou de 20 ans, des chaises roulantes, un peu l'horreur du monde de l'handicap, mais comme en 1940, je sais pas. Et toutes ces images tournaient dans ma tête. Et puis après aussi, le fait que j'arrêtais pas de me dire, mais il a une trisomie, peut-être c'est le truc qu'il faudrait surtout pas qu'il ait, parce que c'est vrai qu'avec ces tests qu'on fait durant les grossesses,
tout à fait,
on a vraiment l'impression que c'est la pire chose qui pourrait nous arriver, qu'ils cherchent que ça, en fait.
Mais oui, mais en fait, c'est parce qu'ils sont capables de déceler que ça.
Tout d'un coup, ça t'arrive, puis tu te dis, mais le truc qu'il fallait surtout pas avoir est arrivé, en fait. C'était impressionnant, les angoisses que ça a générées. Puis voilà, ces images qui sortaient de je sais pas d'où, tout droit de 1940, qui me tournaient en tête. Et puis après, avec le recul, je me dis, c'est vraiment un manque de connaissances, en fait, un manque d'éducation. Voilà, on ne sait pas vraiment ce que c'est la trisomie, ou alors on a une vision tellement arriérée que ouais, forcément, on a des images inadéquates qui nous arrivent à l'esprit. Et puis après, au bout de 3 jours, c'est nous qui avons rappelé, parce que la matinée était bientôt à sa fin et elle n'avait toujours pas appelé. Et du coup, là, on a eu l'assistante au téléphone. Et puis, elle nous a dit, la pédiatre demande si vous pouvez passer les deux au cabinet cet après-midi. Et bon, là, on a un peu compris que les résultats n'étaient pas ceux qu'on attendait. Non plus le coup de fil léger, mais que c'était carrément l'entretien avec les deux parents. Là, on s'est dit, oups, ça va pas tout à fait se passer comme on l'imaginait.
Est-ce que ton mari, il avait vécu cette attente avant les résultats comme toi ?
Oui. Je dois dire que les deux, on était vraiment très mal, puis très angoissés. Peut-être moi un peu plus que lui, mais lui aussi. Il arrivait presque plus à travailler, je faisais que de penser à ça. Ouais, non, on était un peu...
En phase.
Ouais, c'est ça.
Et est-ce que vous en avez parlé autour de vous avant cette annonce officielle de diagnostic ?
Oui, pas à tout le monde, mais à la famille. À certains membres de la famille et à certains amis proches. Et on a eu un peu des réactions diverses. Certaines personnes étaient très étonnées, nous ont dit « Mais non, pas du tout, qu'est-ce que vous racontez ? Il n'est pas du tout trisomique, vous l'auriez su avant, tout ça. » Et puis après, on a quand même eu d'autres personnes qui nous ont dit « Ouais, c'est vrai que j'avais remarqué qu'il était un peu mou. » Ils n'ont pas dit hypotonique, mais je pense que c'est ça qu'ils voulaient dire. Qu'il était peut-être pas aussi développé que d'autres enfants de son âge. Mais ils n'avaient pas non plus pensé à la trisomie, mais ils avaient pensé qu'il y avait quelque chose. Ouais.
D'accord. Mais après, c'est vrai que c'est très délicat de faire
une réflexion. Voilà, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous raconter comment cette annonce a été réalisée donc, par votre pédiatre ?
Oui, donc on est allés les deux l'après-midi pour faire l'entretien avec la pédiatre. On est arrivé au cabinet et puis bon, dès que j'ai vu la tête de son assistante et la tête de la pédiatre, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un truc entre guillemets grave, parce qu'elles étaient très, je sais pas, très solennelles comme ça, c'était très étrange et très sérieuses, etc. Et puis elle nous a dit venez, on va aller dans telle salle pour discuter. Et puis, en fait, il y avait une pédiatre stagiaire, enfin, une jeune pédiatre qui faisait son stage de médecine, qui était là aussi. Et puis, notre pédiatre a dit « Ah oui, je vous présente la doctoresse telle et telle. Est-ce que ça vous dérange si elle assiste à la réunion parce qu'elle est en formation ?» Et puis, j'ai souvenir d'avoir pensé « Bon, si elle nous propose qu'une stagiaire vienne... assister à la réunion, c'est peut-être que c'est pas si grave. » Et puis j'avais de toute façon pas tellement osé dire non. J'ai dit oui, c'est bon. Donc voilà, donc il y avait la pédiatre, un pédiatre en formation, mon mari, moi et William. Et puis après, assez rapidement, en fait, elle a pas tellement tourné autour du pot. Elle a tout de suite dit, écoutez, alors les résultats sont revenus, donc il y a bien trisomie 21. Et bon, là, j'ai souvenir que, même si on s'y attendait, hein, vu le déroulement des choses, oui. C'était un choc énorme d'avoir la confirmation. Et après, j'ai souvenir qu'on lui a tout de suite demandé, mais comment c'est possible, en fait? Alors, est-ce que peut-être c'est une mosaïque? Puis là, elle nous a dit, non, libre et homogène. Donc, toutes les cellules ont 3 chromosomes. Comment ça? C'est pas possible. Après, on a commencé à pleurer. Elle était toute, voilà, mal à l'aise. La pédiatre en formation encore plus. Et puis après, en fait, assez rapidement, j'ai trouvé qu'elle avait quand même réussi à trouver des paroles encourageantes. Je me souviens plus exactement de ce qu'elle a dit parce que j'étais tellement choquée. Mais il y a quand même une phrase qui m'avait marquée. Elle essayait de dédramatiser la situation, puis elle nous a dit, mais ça veut peut-être dire qu'il ne pourra pas faire l'université, mais en même temps, il pourra faire plein de choses. Et après, en fait, on est parti assez vite, parce que moi, déjà, j'entendais plus ce qu'elle me disait. En fait, j'étais en état de choc, j'arrivais plus à dialoguer normalement. Donc après, on est parti assez rapidement, puis elle nous a dit, on se rappellera dans quelques jours pour faire le point. Enfin, voilà.
Tu viens un petit peu de répondre à ma question suivante, mais je vais te la poser quand même. Quel effet ça fait donc de découvrir que son bébé âgé de 9 mois déjà est porteur de handicap et de trisomie 21 en particulier ?
Bon, déjà, de façon générale, je dirais un énorme choc parce que je n'avais jamais imaginé que c'était possible de découvrir une trisomie si tardivement. Je savais bien sûr qu'on pouvait découvrir un autre handicap, hein. Mais je pensais pas que c'était possible dans le cas de la trisomie. Donc, il y avait un choc et aussi une grande incompréhension. Et puis après, je dirais que l'émotion dominante, c'était vraiment la peur. J'ai un souvenir de ressentir une grande peur, en fait, de pas savoir de quoi l'avenir serait fait, de pas savoir voilà comment ça se passera, s'il restera à vie avec nous, combien de temps il vivra. Et puis, j'ai aussi vu mon regard changer. C'est triste hein, de le dire comme ça. Heureusement, maintenant, on est revenu en arrière. Mais tout d'un coup, ton regard, il change. Puis, tu vois plus ton enfant comme avant. Tu commences à te dire, ah, mais il est bizarre. Mais c'est dingue, hein. Alors que pendant 9 mois, c'était le bébé parfait. Puis, tout d'un coup, tu te dis, mais ça, c'est bizarre quand il fait ça. Et puis, ça, il fait pas. Et puis, si. Et c'est incroyable, juste à cause d'un mot, en fait. À quel point ton regard peut changer en quelques minutes.
C'est en effet assez incroyable.
Ouais, ça fait vraiment réfléchir, en fait, parce que lui n'avait pas changé. D'ailleurs, c'est ce que nous ont dit nos filles, parce qu'elles nous ont vu pleurer mais du matin au soir pendant plusieurs jours. Puis on a essayé de leur expliquer, mais en fait, elles ont compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, mais je me souviens qu'elles ont dit « Mais il n'a pas changé !» Enfin, elles ne comprenaient pas, en fait.
C'est toujours le même.
Ouais, elle me disait, mais il est toujours pareil, maman. Enfin, c'était chou d'entendre ça de la part de la bouche d'un enfant, quoi.
Et en vrai, elles ont tellement raison.
Elles ont tout à fait raison. Et puis, ça nous a pris du temps, mais on a réussi à retrouver le regard qu'on lui portait au départ, quoi. Mais ça nous a pris un peu de temps.
C'est vrai que quand on l'apprend dans les jours qui suivent la naissance, on n'a pas encore appris à le connaître. Et c'est vrai que moi, mon regard, il a changé tout de suite. Donc, c'est pas comme si je le connaissais avant.
Ouais, tout à fait. Et puis, je me souviens aussi, d'ailleurs, je parlais de nos enfants tout à l'heure, mais nos voisins, ils connaissaient William depuis 9 mois, quoi. Ils l'avaient vu plusieurs fois et... Eux aussi, ils ont bien compris qu'on avait reçu ce diagnostic, ils savaient ce que c'était que la trisomie, etc. Mais ils étaient aussi un peu étonnés. Ils ont dit oui, mais en même temps, ça fait 9 mois que ça se passe super bien. Ils n'ont pas dit comme ça, mais ils ont presque dit, mais où est le problème, quoi ? Ils comprenaient pas que d'un coup, on soit effondré. D'abord, ils ont pensé que quelqu'un était décédé. Enfin, ils ont dans un tel état. Alors, c'était intéressant d'entendre ces remarques. Ça fait réfléchir.
Ça fait beaucoup réfléchir après coup.
Voilà, absolument.
Si vous l'aviez su pendant la grossesse, est-ce que tu penses que vous auriez choisi d'accueillir William dans votre famille ?
Oui, je pense qu'on aurait voulu poursuivre la grossesse parce que c'était une discussion qu'on avait déjà eue auparavant. Puis on s'était dit que, voilà, on choisirait d'accueillir l'enfant quel que soit le diagnostic. Mais après, je veux pas dire que ça aurait été simple. Je pense que ça aurait généré beaucoup d'angoisse durant la grossesse.
Oui.
Et je veux pas non plus juger les personnes qui auraient pris une autre décision. Mais oui, je pense qu'on l'aurait accueilli.
Tu connaissais pas du tout la trisomie 21 avant d'y être confrontée par la force des choses, c'est ça, hein?
Alors, je la connaissais pas très bien, non. Je la connaissais de loin. J'avais déjà croisé des personnes dans la rue porteuses de trisomie 21.
Oui.
Et donc, je connaissais les traits physiques. Enfin, du moins, je pensais les connaître.
Oui.
Mais après, j'avais jamais côtoyé de personnes avec trisomie dans mon quotidien. On a juste des connaissances un peu éloignées qui ont un garçon qui a la trisomie. Mais aujourd'hui, il est déjà adulte. Et puis, en fait, il est aussi autiste. En fait, il a un double diagnostic. Donc, c'est le seul que je connaissais, enfin, comme ça, de loin. Il s'exprime pas.
Du coup, tu avais plutôt une image de pas beaucoup d'autonomie.
Ouais, vraiment. J'avais même pas conscience qu'il était possible d'avoir une trisomie et de vivre, par exemple, seul ou juste avec un peu d'aide ou d'avoir un travail. Je crois que j'y avais jamais pensé, puis je pense que je ne savais pas que c'était possible.
Moi, personnellement, j'avais jamais réfléchi à la question.
Mais moi non plus, ouais. Je crois, honnêtement. Et je pense que je m'imaginais qu'ils étaient plutôt tous en institution. Enfin, je sais pas, j'avais jamais réfléchi à ça.
Il y a très longtemps, je pense que c'était comme ça.
Mais c'est ça, ouais. Exactement.
Et justement, par rapport au fait que vous l'ayez découvert 9 mois après, est-ce que, du coup, il n'a pas du tout les traits caractéristiques de la trisomie 21? Maintenant que tu le vois autrement, est-ce que...
En fait, je pense qu'il a les yeux en amande. Ça, c'est peut-être le trait le plus dominant. Je pense que c'est pas quelque chose qui nous a alertés parce que ma mère a un peu les yeux comme ça. Et après, une de ses sœurs avait aussi un petit peu les yeux en amande quand elle était bébé. Mais après, par contre, elle les a perdus alors que c'est vrai que William, il les a encore aujourd'hui. Par exemple, il n'a pas de nuque large, il n'a pas l'histoire de l'orteil plus écarté. Mais les yeux en amande, oui. Et puis après, bon, bah, c'est sûr, quand on dit l'âge qu'il a, on remarque un retard, quoi.
De combien de temps tu dirais que tu as eu besoin pour remonter la pente?
Ça m'a pris une année, à peu près.
Donc ça fait pas super longtemps.
Non, ça fait quelques mois que j'ai repiqué, comme on dirait chez nous. Mais bon, d'abord, j'étais très choquée et puis sidérée. Et après, ça m'a un peu déprimée. Vraiment déstabilisée parce que du coup, je me disais, mais j'ai rien remarqué pendant 9 mois. C'est comme si j'avais plus confiance en moi-même, en fait. Je disais, mais je suis pas capable de voir que quelque chose ne va pas. Alors, ça se trouve, maintenant, il y a encore autre chose qui va pas, mais je me rends pas compte. Enfin, j'ai vraiment eu une grosse perte de confiance en moi et aussi en le corps médical. Au début, j'ai eu un peu de peine quand même. À faire confiance à ce qu'on me disait.
À nouveau, ouais.
Ouais, tout à fait.
Et oui, parce que s'ils étaient passés à côté de ça, ils pouvaient passer à côté d'autre chose.
Ouais, c'est ça. Et j'avais hyper peur, en fait, pendant des mois et des mois qu'on m'annonce encore autre chose. Quand j'y pense maintenant, ça me fait un peu sourire, mais...
Et ouais, mais c'est vrai qu'en plus, comme il peut y avoir des probabilités de choses qui arrivent plus facilement, etc.
Ouais, c'est ça, j'avais peur d'un autre choc, en fait. Et j'ai souvenir que quand j'allais le chercher à la garderie, quand il me faisait le retour de la journée, j'avais les jambes qui s'entrechoquaient, en fait. C'était incontrôlable. J'avais peur qu'il me dise « Ah, puis on voulait vous demander ce que si, est-ce que ça ?» Mais c'est dingue, hein. Comme un choc post-traumatique, comme ça.
Ouais. Ouais, mais je pense qu'on s'en remet jamais totalement hein, de ce choc de la note.
Ouais. Ouais, tout à fait.
Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé en particulier à accepter cette situation surprise?
Alors, il y a pas mal de choses, oui. Vraiment, les réseaux sociaux, le fait de voir d'autres familles sur Instagram qui publiaient des vidéos et des photos, ça m'a vraiment énormément aidé en fait. Ça m'a beaucoup encouragée de me dire « Ah, mais une vie normale est possible ». Voilà, une vie remplie de bonheur, enfin. Du coup, j'ai découvert la trisomie que je connaissais pas à travers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est probablement la chose qui m'a le plus aidée, les réseaux sociaux, puis de façon générale, les témoignages, en fait. Aussi, les témoignages sur cette plateforme, hein, sur Triférence, d'entendre d'autres parents parler de leur histoire, c'était vraiment thérapeutique pour moi. Ça m'aidait à dédramatiser. Et puis, après, on a aussi rencontré d'autres familles. Là aussi, ça m'a aidé de pouvoir échanger avec eux, de voir des enfants en vrai, quoi. Après aussi, certaines personnes dans notre entourage m'ont encouragée par des phrases ou leur réaction m'a encouragée quand on leur a annoncé le diagnostic. Certaines personnes ont vraiment eu des réactions qui m'ont beaucoup encouragée. D'ailleurs, cette amie pédopsychiatre, je me souviens, elle m'avait dit « Mais je pense que c'est vraiment une richesse, Catherine, les personnes avec trisomie. » Puis d'abord, je me suis dit « Oh là là, mais de quoi elle me parle ?» Et puis, elle était tout à fait sincère. Elle me disait « Mais moi, j'en ai côtoyé, c'est extraordinaire, c'est une chance et tout ça. » Après, j'ai les souvenirs d'une voisine aussi qui m'a dit « Ah, mais j'ai cru que t'allais m'annoncer quelque chose de grave, mais ça va alors ?» J'étais là « Oui, mais c'est grave quand même !» En fait, ces réactions sur le moment, j'ai souvenir que ça m'avait étonnée, puis limite un peu agacée.
Bah, parce que t'as pas envie qu'on minimise, parce qu'au début, c'est vraiment un drame, quoi.
C'est ça. Et en fait, après, je me suis dit « Mais c'est en fait extraordinaire, ça m'a porté. » Et après coup, je me suis souvenue de ces paroles et j'ai trouvé ça génial, quoi.
Oui.
Et puis... Après, j'ai aussi souvenir d'une discussion avec une généticienne à Genève qui est très pointue dans le domaine et qui nous a dit « Mais vous savez, la trisomie n'est plus ce qu'elle était aujourd'hui avec la stimulation précoce et puis l'inclusion, on arrive vraiment à de tout autres résultats, si je peux dire ça comme ça. »
Oui.
Puis, elle nous a vraiment dit « Mais oubliez cette vision, voilà, la trisomie comme c'était à l'époque. » Puis on ne croyait pas en eux, on ne les stimulait pas et... Donc ça m'a aussi beaucoup encouragée. Et après, je dirais de façon plus générale, c'était aussi de me dire, mais c'est vrai, il n'a pas changé. C'est pas parce que maintenant il y a ce diagnostic que notre vie devrait être si différente. En fait, ça fait 9 mois que ça se passe super bien. Il n'y a pas de raison que d'un coup, ça soit la catastrophe, en fait.
Oui, en fait, il y aura forcément des trucs différents plus il va grandir. Mais ça ne veut pas dire que ce sera moins bien, en fait.
Ouais, voilà. Donc après, j'ai essayé de m'appuyer sur ces 9 mois en me disant, souviens-toi que ça se passait super bien, que tu trouvais que c'était le bébé idéal, qui était le complément parfait de la famille. Et même si on a bien compris qu'il y avait ce diagnostic, ça va bien continuer, quoi.
Est-ce que tu saurais expliquer avec le recul, du coup, de quoi tu avais peur exactement lorsque tu as appris ce diagnostic ?
Alors, je pense que j'avais peur du monde du handicap au sens, de façon générale. Ça me faisait très peur. Et puis, je pense parce que j'ai jamais été confrontée à ce monde. Et puis, j'imaginais que le pire, en fait. Mais je sais même pas d'où viennent ces images, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est des films? Est-ce que je sais pas? C'est des choses que j'ai entendues, mais...
C'est très inconscient, en fait.
Oui.
Parce qu'en fait, personne nous dit un jour, quand on est enfant, le handicap, c'est horrible. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Et du coup, on a une vision comme quoi c'est tabou, un petit peu aussi.
Oui.
Et du coup, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, tout simplement.
Ouais, tout à fait. C'est un manque d'information, un manque d'éducation sur le sujet. Ouais. Et puis après, j'avais peur aussi d'être inquiète à vie, en fait, d'être plongée dans une anxiété qui durerait éternellement. Faire du souci, qu'est-ce qui va devenir, est-ce qu'il va progresser, etc. J'avais l'impression que c'était la fin
de la sérénité.
Ouais, exactement. Que plus jamais je serais sereine, que je me ferais tout le temps du souci.
Et justement, est-ce que tu te fais beaucoup de soucis? Est-ce que tu as beaucoup peur?
Alors, franchement, je m'en suis beaucoup fait. Hein. Je dois dire que pendant une année, j'ai déjà que j'ai un peu un fond anxieux, mais alors là, c'est vraiment très en souci. Et puis là, ça va beaucoup mieux, quoi. Vraiment, maintenant, vraiment beaucoup moins. Et j'ai retrouvé une sérénité, donc c'est vraiment encourageant.
C'est très encourageant.
Et puis, ce qui me faisait peur également, c'était une rupture avec la normalité. Une sorte de rejet de la société. Tout d'un coup, je me suis dit, mais peut-être, ça paraît bête, hein, mais on pourra peut-être jamais aller au restaurant avec lui, peut-être on pourra pas aller, je sais pas, en vacances sans que tout le monde nous regarde, on pourra pas aller à la piscine ou à la plage sans qu'on soit dévisagé, un peu cette impression que la vie normale est finie.
Le regard de la société,
ouais.
C'est vraiment...
C'est quelque chose de très fort, ouais.
Alors que par exemple, moi, c'est plus compliqué d'emmener numéro 1 que numéro 2 au restaurant. Hein.
Bah oui, mais c'est ça, ça n'a aucun sens en fait, tout à fait.
Est-ce que tu penses que tu aurais aimé apprendre sa trisomie 21 en diagnostic postnatal direct ou tu penses que ça a été bénéfique de l'apprendre 9 mois après?
Alors vraiment, je suis très contente de l'avoir appris 9 mois après. Je pense que c'était vraiment une chance parce que du coup, on a pu le découvrir sans lui mettre cette étiquette. C'était vraiment un cadeau, quoi, d'avoir ces 9 mois sans penser à ça. Ouais, non, alors je changerais pour rien au monde. Et puis maintenant, c'est un peu ça l'exercice, c'est de revenir en fait à cette sérénité et de le regarder finalement comme on l'a regardé les 9 premiers mois, sans être dans un déni non plus, quoi, mais...
Mais en fait, le regarder évoluer à son rythme, certes, mais il évolue. Je suis
C'est
sûre que
ça.
maintenant, il marche, c'est ça, je crois?
Oui, tout à fait. Ouais, ça y est, il marche. Donc ça, c'est super. Ça fait tellement plaisir quand il commence à marcher.
Et il commence à dire quelques mots ou à signer.
Il signe pas mal de mots. Donc,
D'accord.
et on le comprend assez bien, en fait. Il maîtrise, je sais pas, une trentaine de signes, je dirais.
Super.
Donc, on arrive bien à comprendre ce qu'il veut. Après, il dit pas beaucoup de mots pour l'instant, mais il dit maman, papa et non. Alors, non, il maîtrise super bien. Et bah voilà, c'est déjà un bon début, mais c'est chouette parce qu'on voit qu'il a envie de communiquer. Il essaye de nous dire des trucs avec les signes. Et ouais, c'est vraiment déjà une petite personne, quoi.
Comment tu définirais aujourd'hui l'impact qu'a la trisomie 21 dans ta vie?
Alors, je dirais que ça implique une certaine organisation, réorganisation. On a bon, plus de rendez-vous qu'auparavant, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas forcément des rendez-vous purement médicaux. Bon, on a la chance qu'il est en bonne santé. Mais des thérapies, on a quand même pas mal de thérapies pour le stimuler. Donc c'est vrai que l'agenda est un peu plus chargé qu'auparavant. Ouais, c'est un peu la seule différence en fait.
T'as pas l'impression que ça coïncide avec des sacrifices?
Non.
Non.
Non, franchement, non. On fait tout comme avant, seulement on a ces rendez-vous en plus.
Ah, c'est vrai que ça aide beaucoup qu'il soit en bonne santé. Si Charles n'était pas en bonne santé, enfin je veux dire, voilà, il a eu des bronchiolites, c'est vrai, on a été 2 fois à l'hôpital, mais je trouve quand même qu'il reste en bonne santé et que du coup on a une vie normale
Oui.
la plupart du temps, quoi. Enfin
Oui,
voilà.
tout à fait. Après, je dirais peut-être la seule chose, c'est que vu qu'on a toutes ces thérapies, ce qui est un peu différent, c'est que du coup, on a énormément de retours. Et donc, ça, on n'avait pas vécu ça avec nos filles. C'est qu'on a beaucoup de retours sur l'évolution de son développement. Donc, ça, c'est peut-être la chose qui est nouvelle pour nous, en fait. C'est que j'ai l'impression que chaque semaine, on parle de son développement. Parce qu'avec nos filles, on n'a jamais fait, quoi.
Bah oui, bien
On
sûr.
a l'impression qu'elles ont poussé toutes seules, en fait. On s'est jamais trop posé la question de ce qu'elles faisaient à tel âge ou pas. Enfin, tandis que là, c'est vrai que tout est un peu observé en détail, en fait.
Et on te dit ce qu'il faut faire pour la prochaine étape, quoi.
Ouais, c'est ça. Et voilà, on peut dire, alors, la prochaine étape, ce sera ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu inhabituel. Et au début, j'ai trouvé ça hyper anxiogène. Et là, j'ai aussi un peu appris à le gérer, en fait. Ça va mieux, mais au début, c'était tellement inhabituel.
Est-ce qu'il y a des situations que tu trouves difficiles à vivre aujourd'hui et qui ont un rapport, bien sûr, avec la trisomie 21?
Alors, de moins en moins, mais bon, il y a quand même certaines situations qui sont parfois un petit peu inconfortables, je dirais plutôt. Par exemple, quand je me retrouve avec un enfant qui a exactement le même âge que William, qui n'a pas de diagnostic, enfin, qui a un développement ordinaire, c'est
Ouais.
vrai que parfois je trouve un peu difficile de voir que voilà, il parle déjà, il court, enfin. Au début, je trouvais ça vraiment difficile. Et puis maintenant, je le gère mieux, en me disant, bah, en fait, il va aussi y arriver, quoi. Puis qu'est-ce que ça change qu'il y arrive quelques mois plus tard, au final? Donc, ça, je dirais que ça va mieux. Et après, ce que je trouvais parfois difficile, c'était les inquiétudes liées à la trisomie 21. C'est vrai que au début, j'allais beaucoup sur Internet. Du coup, je voyais la liste de tout ce qu'il pouvait potentiellement avoir. Et ouais, ça me générait beaucoup de stress. Et j'ai arrêté de faire ça.
Ben c'est vrai qu'en fait, il y a une grande liste et après, ils vont avoir certains trucs et pas d'autres.
Ah.
Heureusement qu'ils n'ont pas toute la liste, hein.
Non, mais c'est
Oh
ça.
là là!
Parce que moi, au début, je me suis dit, il va tout avoir, quoi. Et ça m'avait vraiment beaucoup stressée. Puis après, maintenant, j'ai arrêté de faire ça. Et puis surtout, je me dis, bah, il va pas forcément tout avoir, hein.
Et puis, s'il a quelque chose, on verra bien.
C'est ça. Et puis après, sinon, je trouve aussi parfois, quand je suis en contact avec certaines administrations, chez nous, on appelle ça l'assurance invalidité, pour qu'ils nous remboursent certains frais médicaux, qu'ils prennent en charge certaines thérapies. C'est vrai que au début, j'avais beaucoup de peine avec ce terme assurance invalidité.
Invalide, ouais. Ouais. Ici, en France, c'est incapacité. Hein.
Ah, voilà. Et donc au début, ça m'avait beaucoup choquée. Et puis après, ils ont aussi une rente, en fait. Tu peux faire une demande pour toucher un certain montant chaque mois. Et ils appellent ça la rente pour impotent. Ouf. Alors ça aussi, tu te dis... Ouais, j'ai trouvé ces termes, mais d'une violence. Donc ça, au début, c'était difficile. Ouais.
Ouais, je comprends. Ici, dans les dossiers spécial handicap qu'on fait à la maison départementale des personnes handicapées, la trisomie 21, c'est reconnu comme 80% d'incapacité. Et c'est vrai que quand je vois Charles, alors je sais qu'il est petit, mais je vois pas 80% d'incapacité, quoi.
Non, mais je trouve ça terrible. Et puis surtout, je trouve affreux de dire que, de base, quelqu'un qui a une trisomie aurait 80% d'incapacité.
Le truc, c'est que ça peut ouvrir des droits et des portes aussi. Oui. Donc, c'est difficile de dire « Ah ben non
ouais. !»
Enfin voilà, ça a aussi ses avantages. C'est-à-dire que comme c'est tellement connu comme handicap,
oui.
Du coup, enfin en tout cas en France, ça ouvre quand même pas mal de portes.
Ouais.
C'est quand même agréable de pas devoir se battre.
Mais en même temps, ça enferme aussi les personnes avec trisomie dans un cliché, comme quoi ils sont incapables.
Et qu'il faut les assister.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'est un petit peu ambivalent.
Ouais, absolument.
Donc ça, c'était tout ce qui est un petit peu difficile. Est-ce que tu peux me parler des choses positives que ça a apporté dans ta vie?
Je dirais que ça m'a appris à lâcher prise. Parce que j'étais quand même pas mal dans le contrôle. Je suis quand même quelqu'un qui aime bien contrôler ce qui se passe et je suis assez organisée, je planifie, je me laisse pas tellement porter comme ça. Et donc là, tout d'un coup, t'es un peu obligée en fait de lâcher prise. Et puis finalement, ça m'a fait du bien de me dire que c'est pas parce que ça se passe pas comme je pensais que ça va mal se passer en fait. Que ça va juste être différent. Et ça va être très bien aussi. Et puis après, je dirais aussi que ça m'a appris à sortir d'une mentalité de performance. Je pense que une mentalité que notre société nous impose aussi. Et puis aussi peut-être de par les études que j'ai faites, parce que je suis économiste de formation.
D'accord.
Donc c'est vrai que les notions de rentabilité, efficience, rapidité, tu vois, c'était vraiment toute la base de mes études. Et puis là, tout d'un coup, tu te retrouves dans une situation où ça va peut-être aller plus lentement, ça va être peut-être moins efficient aux yeux de la société. Et en fait, ça fait beaucoup de bien parce que on voit que ça n'amène de loin pas que du positif. Hein. On voit où ça mène la société d'aujourd'hui, quoi.
Oui.
Toujours vouloir croître, être efficient, rapide, on va droit dans le mur aussi. Donc, je trouve que c'est intéressant, en fait, de sortir de cette mentalité. Et puis après, la troisième chose que je dirais, c'est que ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir au poids que pouvait avoir un diagnostic et à quel point ça pouvait changer notre regard, en fait. Parce que, voilà, comme je l'ai expliqué, on l'a vécu avec William, où tout d'un coup, juste à cause d'un diagnostic, tu commences à penser différemment, à regarder l'autre différemment, à agir différemment. Du coup, je trouve ça super intéressant de réaliser que le diagnostic ne devrait pas avoir un tel poids, enfin, oui. Sans tomber dans le déni, mais en même temps, on accorde trop de poids, je pense, aux étiquettes qu'on colle sur les personnes.
Oui, tout à fait, et là, c'est vrai pour le handicap, mais c'est vrai pour plein d'étiquettes, c'est-à-dire tel enfant est bavard, ouais.
Exactement, alors que chaque personne évolue, est différente, et c'est pas parce que tu as quelque chose que ça te définit, quoi.
Un chromosome en plus, par exemple.
Voilà, exactement.
Et comment ça se passe, son accueil dans la crèche où tout a commencé? Est-ce que vous êtes resté dans cette crèche?
Oui, on y est resté, même si, je dois dire, juste après cette histoire, ça a été vraiment difficile pour moi de retourner là-bas, de l'amener, de le confier là-bas. la jeune femme qui avait fait, enfin, qui a fait un peu la gaffe. Et après, il avait une autre éducatrice qui s'occupait de lui, qui est aussi partie. Il y a eu pas mal de changements dans la crèche. Mais après, ça a duré quelques mois et ensuite, ça s'est stabilisé. Et aujourd'hui, il est toujours là-bas. Et je dois dire que ça se passe super bien, quoi. Vraiment, il s'épanouit. Bon, il y va que un jour par semaine, mais il aime beaucoup y aller. Il est vraiment super content, en fait, à chaque fois qu'on l'amène.
Oui, ça fait plaisir. Il s'entend bien avec les autres enfants?
Oui,
Oui.
tout à fait. Il s'entend bien avec les autres enfants. Il va vers eux. Il rigole beaucoup. Enfin, on le voit vraiment à l'aise, en fait. Il y a une petite copine de la crèche qui a son âge. Et en fait, sa maman, elle était l'enseignante de notre fille aînée en maternelle. Et une fois, donc, sa maman me dit « Oui, Théa aime beaucoup William. Et on aimerait une fois vous inviter à la maison. Elle aimerait jouer avec lui et tout ça. » Et vraiment, ça m'a fait vraiment bizarre parce que déjà que je me demandais si un jour il serait invité, enfin, ouais, c'est ces questions un peu ridicules qu'on se demande, mais est-ce qu'il y a des gens qui viendront à son anniversaire? Est-ce qu'il aura des copains et tout ça? Et je pensais pas recevoir une invitation, en fait, alors qu'il avait même pas 2 ans. C'était super, ouais. Belle surprise.
Et est-ce que l'entrée dans le système scolaire, c'est quelque chose qui te préoccupe?
Un peu forcément.
Oui.
Ça serait faux de dire que non, mais je dirais que plus on avance, moins ça me préoccupe parce que je vois qu'il fait des progrès et qu'il a des capacités. Je vois qu'il est quand même malin en fait et qu'il a un sens de l'humour, il est un peu coquin. Enfin, du coup, ça
Ouais.
me rassure. Je me dis, ah ben, ouais, s'il a l'intelligence pour faire un peu des petites blagues à son niveau, on va dire. C'est bon signe, quoi. Donc, plutôt des éléments rassurants. Après, oui, quand même, ça m'inquiète de savoir qui sera la personne qui l'aidera pour l'intégration, comment ça se passera avec les autres copains. Un peu, ouais. Du coup, ça sera en 2025. Donc, on a encore un peu de temps.
De quoi tu rêves pour la vie de William?
Bon, alors, bien sûr, je rêve de bonheur. J'espère qu'il sera heureux. Ce qu'il est déjà, j'ai l'impression. Après, je pense, j'aimerais qu'il puisse développer ses dons, puis ses capacités, parce que même si on parle de déficience, moi, je suis sûre qu'il a des dons et des capacités. Et puis, j'aimerais bien qu'il arrive à trouver, en fait, ce qu'il aime faire et voilà, ce qu'il arrive bien faire, puis qu'il développe ça, qu'il ait la possibilité de développer ça. Et puis après, c'est sûr, je rêve d'une certaine normalité, enfin, même si je suis consciente qu'il est un peu différent, mais j'espère qu'il pourra avoir des bons amis, j'espère qu'il pourra avoir une indépendance, qu'il pourra être inclus dans la société avec un travail. Voilà.
Et est-ce que tu as envie de faire passer un message à ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont en plein choc de cette annonce qui bouleverse tout?
Alors, bon, j'aimerais dire déjà qu'on s'en remet, que de jour en jour, ça va mieux et que vraiment, on arrive à retrouver une certaine sérénité, une certaine confiance. Ça, vraiment, avec le temps qui passe, on y arrive. Et puis, j'aimerais dire qu'il ne faut pas non plus trop donner de poids à ce diagnostic. Continuez à croire en les capacités de votre enfant. Il faut continuer à être confiant. Il faut pas trop lire de choses sur Google. Ouais, je suis vraiment convaincue que plus on croit en les capacités de l'enfant, plus on est positif, mieux ça se passe. Bon, après, je me rends compte que c'est pas non plus une recette magique. Il y a aussi des gens qui étaient super positifs et qui croyaient en les capacités de leur enfant, puis ils ont eu pas mal de difficultés. Mais disons, je pense quand même que c'est un facteur qui aide.
Oui.
Donc ça, j'en suis convaincue. Parce que oui, je pense même à un enfant qui n'a pas de diagnostic, si tu penses qu'il va pas réussir, si tu penses que ça va mal se passer, puis tu es toujours en train de le limiter, au final, ça va mal aller. Donc,
Ah, ça a forcément un énorme poids, l'entourage familial et
ouais,
la vision.
c'est ça. Donc, je pense que plus on peut être positif et encourageant, mieux ça se passera. Et puis, je pense aussi qu'il faut sortir de ce schéma imposé par la société. qu'il faut être rapide, performant, avec un QI élevé, qu'il faut réussir dans tous les domaines de sa vie. Parce que, je veux dire, c'est pas la garantie au bonheur, quoi. Donc, il y a d'autres personnes qui sont peut-être, qui ont emprunté une autre voie, qui sont peut-être pas aussi performantes aux yeux de la société, qui sont en fait extrêmement précieuses et puis qui font vraiment une grande différence dans notre société aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup envie qu'ils aient une autonomie et qu'ils travaillent, etc. Mais je pense que même s'ils faisaient pas ça, probablement que ce serait super aussi et qu'ils apporteraient beaucoup quand même.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Catherine, de nous avoir permis d'écouter ton témoignage et surtout de m'avoir fait confiance pour le livrer ici. Poser des mots sur son histoire, c'est vraiment important et ça permet aussi, je trouve, de se rendre compte du chemin parcouru depuis l'annonce. Car que l'on découvre la trisomie 21 de son enfant quand il est dans le ventre, à la naissance, comme moi, ou comme toi, 9 mois plus tard, ça reste un énorme choc, comme tu l'as dit, et une blessure au début avec laquelle on apprend à vivre. Merci encore à toi.
Merci beaucoup à toi de nous donner cette possibilité de raconter nos histoires et de, on l'espère, encourager d'autres.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence. Merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt. Et rendez-vous le 21 du mois prochain pour découvrir un nouveau témoignage qui, je l'espère, vous fera sourire, réfléchir et résonnera dans votre cœur. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes et permettre ainsi son bon développement. Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas